Pauline Pucciano, Le Septentrion. Drax était plus pâle que de coutume et semblait craindre à tout instant que quelque chose s'effondre. Il était pénible à Lioa, bien qu'elle ne pût lui expliquer ce sentiment, de le voir dans une telle imminence de douleur. « Vous paraissez souffrant, » articula-t-elle. « Ne vous occupez pas de cela, et dépêchez-vous, » dit-il avec un sourire. « Je n'ai pas beaucoup de temps. »« Je viens solliciter votre appui, » dit-elle d'un ton hésitant. Drax se laissa tomber dans son fauteuil. « Vous êtes toujours si sûr de vous. »« Mais vous ne pouvez pas rester neutre quand le monde a une petite chance de redevenir ce qu'il était. »« On ne redevient jamais ce qu'on était, Lioa. Quant à la démocratie à laquelle vous rêvez, eh bien ?» Ce sont vos rêves, pas les miens. Lioa cherchait désespérément la faille où elle pourrait s'engouffrer. L'Orient ne risquerait rien en intervenant. Nous avons des forces suffisantes. L'Orient ne souhaite en aucune façon faire de la politique. Lioa resta un moment silencieuse, abasourdie. Mais qu'est-ce qui a de l'importance pour vous? Ce qui ne change pas. L'esprit humain, les montagnes, le ciel. Tout le reste n'est qu'accident, hasard et variations sans conséquence. Lioa avait renoncé depuis quelques secondes déjà et avait hésité à partir, mais quelque chose de plus fort qu'elle l'obligea à rester. Est-ce aussi de cette façon que vous considérez les gens? Chaque être est un avatar de l'éternel, et chacun est digne de la plus grande passion. Lioa secoua la tête. Drax la fixait, avec acuité. Et pour vous, Lioa? « Qu'est-ce qui a de l'importance ?»« Mon action, » dit-elle sans hésiter. « Mon action, et elle seule. » Il lui sourit d'un air qui la mit mal à l'aise. « Si vous pouviez voir votre avenir, vous sauriez que votre action non plus n'a aucune importance. » Elle allait se récrier quand elle vit le regard de Drax attiré brutalement par quelque chose d'imaginaire à côté d'elle. Il semblait cloué à ce qu'il venait de voir, et tout son corps montrait les signes d'une tension extrême, paroxystique. Elle se déplaça pour se poster devant lui, mais le regard du prince double la traversa de part en part, plongé dans une perspective à laquelle ses yeux n'avaient pas accès. Muette, elle resta fascinée par le spectacle inattendu. Le visage de Drax, d'ordinaire éclipsé par la profondeur de son regard hypnotique, lui était apparu tout à coup dans sa beauté presque surnaturelle. Le temps était beaucoup plus doux que cette sinistre nuit où Dansk était revenu des 100 000 marches. Cette fois, la forteresse était immobile et calme, et la guerre qui se préparait, comme ailleurs, s'y faisait à peine sentir. C'était une électricité ambiante, une excitation semblable à celle d'un grand spectacle. Cela faisait déjà 1 heure que le général bavardait avec Sein sur la terrasse de ses appartements, et qu'il regrettait d'avoir si sévèrement jugé son ami la dernière fois qu'il s'était vu. Il le retrouvait aujourd'hui semblable à son souvenir, et, dans la grande rédemption des soirées septentrionales au-dessus de la mer, il se trouvait prêt à le considérer comme l'un des êtres qui lui était le plus proche. Sein parlait avec animation de cette guerre, de la victoire à venir et de la chute des dictatures. Il se plaisait à en imaginer les aspects les plus étonnants, les bouleversements les plus forts, et Dansk, qui avait envie de se laisser porter par son discours, lui donnait une réplique à la fois molle et convaincue. Elle est entrée là-bas lors d'une guerre honteuse pour une paix médiocre, et elle en sortira le front couvert de lauriers. J'en suis sûre maintenant, nous vivons les dernières années de l'Olympe. Le général eut un petit rire complaisant, satisfait malgré lui par cette perspective si bizarre. « Et que diable ferons-nous des souverains ? » demanda-t-il. Sein secoua la tête, de l'air patient d'un homme enthousiaste qui n'a pas de temps à perdre pour plaisanter, puis il se lança dans un tithyrambe passionné de celle à qui, selon ses mots, on allait devoir la liberté. « Pour l'instant, nous ne lui devons que la guerre, » fit observer Dansk. « Et si l'espoir est grand, le risque ne l'est pas moins. » Sein se prit à sourire. « Crois-moi, Dansk, nous ne pouvons pas perdre. » Et le général, qui avait pourtant en main toutes les données stratégiques tendant à démontrer l'incertitude de la position, accepta de le croire et sourit avec lui. Durant la première phase du conflit, les forces en présence s'espionnèrent, se jaugèrent et s'affrontèrent finalement sur les frontières boréales pour conclure à une égalité des chances que seul pourrait départager le génie tactique. La situation resta en effet bloquée de longues semaines et chacun des camps, ayant affaire à forte partie, dut déployer toutes ses ressources d'inventivité et de clairvoyance. Lioa et Lioltid espéraient que cette position se maintiendrait jusqu'à la mise sur pied de l'ordinateur autonome, dont les capacités présumées feraient pencher la balance en leur faveur. De l'autre côté, on se mit vite à chercher l'appui de l'archipel et de l'Austrie, dont les réponses équivoques et évasives convenaient assez mal à la situation d'urgence. Ce travail de haute voltige diplomatique avait naturellement été confié à l'ancien, tandis que Rem poursuivait, opiniâtre, la partie engagée. Drial, lui, paraissait de jour en jour se désinvestir un peu plus de l'affaire. L'effort l'ennuyait plus encore que l'oisiveté, et il regrettait ouvertement d'avoir déclenché ces hostilités, qui promettaient, sinon de s'éterniser, du moins de n'aboutir qu'à une demi-victoire. Depuis sa tour d'ivoire, Nebelouir contemplait ses gerbes d'énergie gaspillées, attentif au surgissement du signe qui le jetterait dans l'action. C'était la troisième fois déjà que Yorick lui demandait audience, et s'il avait trouvé plaisant les premières fois de lui refuser ce qu'il mendiait, il était aujourd'hui agacé par l'insistance infatigable du vieillard. Il fut donc relativement soulagé par la phrase d'introduction de Yorick, non sans y déceler pourtant un de ses détours hypocrites. « Je ne suis pas venu à nouveau solliciter votre intervention, » fit-il presque en entrant. Nebelouir mesura d'un coup d'œil l'avancée de la mort dans le corps de l'ancien et songea que Nasht aurait sans doute à cette vision édicté une probabilité précise. « Dans ce cas, » dit Nebelouir très calmement, « vous êtes sans doute venu me persuader de la nécessité de cette intervention. » Yorick tourna la tête de tous côtés. « Où puis-je m'asseoir ?» Nebelouir, en souriant à part lui, lui prit très courtoisement le bras et l'installa dans l'un des sièges de son antichambre. « Je ne me hasarderai pas à persuader quelqu'un qui possède plus d'arguments que moi, » dit-il après un silence. « Eh bien, dans ce cas, je vous écoute. » « Cela fait plusieurs années déjà que je vous jouais votre propre jeu. » Nebelouir demeurait silencieux, et Yorick dut reprendre seul. « Vous vous êtes désengagé de toutes les décisions importantes, vous n'avez soutenu ni combattu personne. » Vos accords commerciaux eux-mêmes sont tellement mercantiles qu'ils semblent purs de toute arrière-pensée idéologique. Mais je ne crois pas que cela puisse durer. Êtes-vous devenu voyant ? Yorick agita la main dans son geste familier. Vous savez comme moi que l'enjeu de ce conflit dépasse très largement sa cause initiale. Sept puissances y sont déjà mêlées, et cela tournera tôt ou tard à l'avantage de l'un des camps. « Vous ne pouvez pas être indifférent à l'issue de cette affaire. J'ajoute même que vous ne pouvez pas souhaiter que l'axe mineur soit victorieux. »« Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?»« Je ne sais pas plus que tous les autres le but que vous poursuivez, mais je crois discerner que vous tirez un grand profit de l'équilibre actuel. La scène internationale vous convenait telle qu'elle était, puisque vous n'avez rien fait pour la modifier, et il y a donc fort à parier qu'un changement trop radical ne vous conviendrait pas. » L'analyse était assez fine, même si elle était générale, et ses conclusions n'étaient que trop vraies. Mais Nebelouir était pris d'un désir soudain de jouer. « Qui vous dit que la scène internationale, comme vous l'appelez si sérieusement, a une quelconque importance pour moi ?» Yorick observa un silence. « Vous êtes un bluffeur, Nebelouir. J'ignore dans quelle proportion, mais rien ne saurait m'en ôter la certitude. » « Mais n'est-ce pas vous, mon cher collègue, qui êtes précisément en train de prêcher le faux pour savoir le vrai ?» Yorick eut un râle impatient, dans l'espace duquel Nebelouir put admirer, sous le masque du diplomate et derrière les onctuosités du discours, la détermination mécanique de l'homme rongé par le pouvoir. « Je sais que vous agirez quand l'heure vous semblera venue, » dit l'ancien. « Ce que vous savez ou croyez savoir ne m'intéresse guère, j'en suis navré. » Le vieillard fulminait silencieusement, ou cherchait peut-être un dernier moyen pour emporter la conviction. Il était impossible de donner un nom à l'expression étrange de son visage. « Je constate, » dit Yorick après une courte pause, « que je perds mon temps en essayant de vous sonder. » Il se leva, et Nebelwyr dut lui reconnaître à cet instant précis une certaine majesté. « Laissez-moi vous rappeler cependant, » ajouta le vieillard, « que les hauteurs où vous vous tenez ne seront pas éternellement inatteignables. » Il sera temps alors pour nos successeurs d'ouvrir un dialogue aujourd'hui inutile, répondit Nebelwyr très poliment. Yorick ne répondit rien, et Nebelwyr, avec une douceur perfide, lui prit à nouveau le bras pour le reconduire à la porte. Hélas, pauvre Yorick, déclama-t-il en le lâchant. Le vieillard se retourna vivement, et Nebelwyr tressaillit. Le visage qu'il avait devant lui, qui dormait la plupart du temps dans la pâleur de ses yeux livides, semblait s'être brusquement réveillé. Animé par une force venue des tréfonds de son être, il irradiait maintenant une haine pure, dont il était difficile de soutenir l'expression.